Merci. À l'origine, cette conférence devait être donnée par Sylvain Bréchet, qui est, comme il a été dit, aux États-Unis pour une conférence de physique maintenant. Et donc, je me suis chargé de parler de ce thème, l'origine de l'univers, qui est un thème fort ambitieux. Et je voudrais d'emblée mettre un petit bémol à ce titre en parlant plutôt du commencement, puisque le discours scientifique concerne plutôt, à vrai dire, le commencement que l'origine, et je m'en expliquerai brièvement dans l'introduction, pour ensuite vous dérouler un petit peu ce scénario de l'évolution de l'univers dans une perspective de science située, comme vient de le dire Lydia, en vous décrivant brièvement l'histoire de la cosmologie du XXe siècle essentiellement, et puis pour vous montrer un petit peu pourquoi pratiquement la totalité des astrophysiciens et des cosmologistes admettent ce scénario du Big Bang. Et on conclura avec quelques brèves remarques sur les relations avec la foi chrétienne. Il faut distinguer en bon philosophe et en bon théologien, enfin je ne suis qu'un amateur dans ce domaine, mais il est d'usage de distinguer l'origine qui relève de la création ex nihilo, cette espèce de don de Dieu en fait qui fait passer le néant à l'être, la création ex nihilo. Il s'agit de distinguer cette origine du commencement qui n'est autre que la phase initiale mais déjà existante d'une longue histoire qui est analogue un peu à l'histoire par exemple d'un œuf fécondé qui devient 20 ans plus tard l'adulte beaucoup plus complexe et évoluer, si je puis dire, que ce simple œuf fécondé qui apparaît en tout cas très simple au premier abord. Si bien que la question de l'origine est au-delà des compétences de la science, et ayant dit cela, je pourrais presque arrêter ici mon exposé, puisque j'ai traité du sujet des limites de la science, qui est le thème de la journée. Bien entendu, vous attendez davantage de moi que cela, je pense. Et, il est clair que la science peut décrire le commencement de l'univers, et s'il y a eu commencement, peut-être y a-t-il eu origine. Alors, certains le contrediront, mais le fait est que la science peut au moins suggérer, de par sa description des commencements, l'origine, sans pouvoir en faire plus toutefois. J'aimerais maintenant aborder l'aspect un peu historique de la conception que nous avons de l'univers. Il est important de remarquer qu'autrefois, du moins en Occident, je ne suis pas spécialiste des cosmologies ou des cosmogonies antiques, mais le fait est que les atomistes grecs, par exemple, considéraient qu'il y avait un cadre, un espace fixe et infini, donc ça c'était plusieurs siècles avant notre ère, dans lequel les atomes, qui eux étaient éternels, s'arrangeaient en combinaisons éphémères, dont notre monde, qui est appelé à disparaître pour laisser place à d'autres mondes formés par le hasard des rencontres des atomes. Alors cette idée quand même d'un cadre, de composantes éternelles et fixes de l'univers a perduré jusqu'à Newton, qui imaginait aussi des astres évoluant dans un espace absolu fixe, si vous voulez, et même jusqu'à Einstein, qui a construit à partir de ses équations de la relativité générale un modèle d'univers statique. Et c'est très important de voir que la prise de conscience d'un univers en évolution dynamique est assez tardive, elle date des années 20, et a été le fait premièrement d'Alexandre Friedman, un obscur mathématicien russe qui s'est illustré par deux articles montrant que la solution générale des équations de relativité générale d'Einstein, publiée quelques années plus tôt, était bel et bien un univers en expansion ou éventuellement en contraction, mais pas forcément statique. Il faut rendre hommage aussi à l'abbé Georges Lemaître, qui est le véritable père ou le principal, disons, père du Big Bang, qu'il appelait à l'époque la théorie de l'atome primitif. Et puis, citons également, donc Friedman et Lemaître sont des théoriciens, des mathématiciens, citons également Edwin Hubble, qui est le grand observateur qui a permis la mise en évidence justement de ce comportement dynamique de l'univers en 1929. Alors ce comportement dynamique, d'où vient-il? Vous avez ici une illustration tirée d'un livre The Realm of Nebulae, donc le royaume des nébuleuses, au fait des galaxies comme on dirait actuellement, écrit par Hubble dans les années 30. Il a remarqué qu'il y avait une relation simple de proportionnalité entre la vitesse d'éloignement des galaxies lointaines et puis leur distance. Plus une galaxie est lointaine, plus elle s'éloigne vite. C'est ce qu'on appelle la loi de Hubble, qui est due en réalité à Georges Lemaître, puisqu'il l'avait énoncé déjà en 1927 sur la base d'observations fragmentaires qui existaient déjà avant les travaux de Hubble. Mais c'est Hubble qui a donné son nom à cette loi parce que c'est lui qui l'a assise de manière vraiment indubitable. Alors, vous voyez ici sur cette planche une série de clichés négatifs de différentes galaxies dont les distances sont croissantes. Vous avez 900 000 années de lumière ici jusqu'à 135 millions d'années de lumière. Ces distances ont été révisées depuis, mais qualitativement, le résultat ne change pas. Et puis sur la gauche, vous avez des clichés noirs et blancs de spectre, donc vous analysez la lumière en ses composantes. Alors, si on avait des photocouleurs ici, on aurait quelque chose en arc-en-ciel, n'est-ce pas, avec le rouge à droite et le violet à gauche. Ce qui est important à voir, c'est que dans ces bandes-là, vous voyez pas grand-chose, si ce n'est cette paire de raies très intenses qui sont la signature de l'atome de calcium, qui est particulièrement visible dans les étoiles froides et géantes, qui constituent la majorité de la luminosité de ces galaxies. Les raies HK du calcium. Alors, vous voyez que pour une galaxie proche, elle se trouve à peu près à la même longueur d'onde que la longueur d'onde de laboratoire dans lequel vous pourriez les mesurer. Par contre, pour des galaxies de plus en plus lointaines, vous voyez que cette paire de raies se décale vers le rouge. Et le décalage est donné ici par cette flèche. C'est la différence entre la longueur d'onde observée et puis la longueur d'onde de laboratoire. C'est ce qu'on appelle le décalage vers le rouge, ou le redshift en anglais. Juste pour indication, ces raies noires de part et d'autre du spectre de la galaxie ici sont des raies d'hélium qui servent de référence pour les longueurs d'onde. Donc vous voyez que plus la galaxie est lointaine, plus elle s'éloigne vite de nous, et c'est toujours un redshift, c'est jamais un blue shift, c'est-à-dire que la source s'éloigne de nous et on interprète ceci, ce décalage vers le rouge, en termes d'effet Doppler, en fait. Ça veut dire que vous avez ce phénomène aussi lorsque la police mesure la vitesse de votre voiture, eh bien, elle utilise l'effet Doppler avec des vitesses beaucoup plus faibles, mais l'astrophysicien utilise également cet effet et peut traduire le décalage vers le rouge en termes de vitesse. Alors, si vous représentez maintenant la vitesse que vous avez ici en ordonnée, en fait, c'est le log, le logarithme de la vitesse d'éloignement, en fonction du logarithme de quelque chose qui est lié à la distance, s'il s'agit de la magnitude apparente, en fait, vous voyez que les galaxies, là, ce sont des galaxies membres d'amas de galaxies, s'alignent assez bien sur une droite dont la pente donne le taux d'expansion de l'univers. En fait. Alors, on arrivait au milieu du XXe siècle à peu près à ce constat. Et je vais vous signaler deux grandes classes de modèles d'univers. Le premier, c'est le modèle de Big Bang ou de la théorie de l'atome primitif de Lemaître, si vous voulez. Imaginez que vous découpez une portion sphérique de l'univers quelconque, à une époque quelconque. Vous avez, c'est illustré ici par ce rond, les points noirs sont des galaxies. Vous pouvez construire un triangle ABC à partir de n'importe quel triplet de galaxies. Et puis vous attendez quelques milliards d'années. Alors, ce volume s'est étendu, vous l'avez à droite. Vous trouvez ce triangle ABC qui est en fait un triangle semblable au premier, qui a subi une homothétie, donc une dilatation d'un certain facteur. Et puis, évidemment, immédiatement vient à l'esprit l'idée saugrenue que si vous remontez le temps, eh bien, n'est-ce pas, toute homothétie a une origine, et le triangle ABC va se réduire en un point. Et là, vous êtes très embêté parce que ça veut dire que les galaxies vont converger les unes sur les autres, les étoiles constituant ces galaxies vont se fondre les unes dans les autres, et puis vous avez une espèce de milieu extrêmement chaud et dont la température va augmenter jusqu'à l'infini, de même que sa densité à l'instant t égale zéro. Et c'est ce qu'on appelle une singularité mathématique, hein, où toutes les quantités tendent vers l'infini de manière asymptotique. Et puis, physiquement, c'est très ennuyeux. En plus de ça, ça suggère l'idée d'une origine, justement, qui gêne beaucoup de monde. Alors, oui, juste ici, une description de... si vous prenez un des côtés, le côté AB, par exemple, du triangle, et que vous le reportez ici en ordonnée en fonction du temps, eh bien, vous pouvez avoir au moins deux comportements différents, soit un comportement oscillatoire ici, c'est-à-dire que l'univers subit une expansion à cause de la gravité qui tend à retenir les galaxies et les faire converger les unes vers les autres. Cette expansion ralentit. Si la densité de l'univers est suffisante, eh bien, même elle va s'arrêter et puis s'inverser pour converger vers un Big Crunch, et puis éventuellement renaître comme le phénix de la légende, et puis vous aurez un univers oscillant qui est bien pratique parce qu'il relègue la question de l'origine à l'infini dans le passé. Par contre, si l'univers est très peu dense, eh bien l'expansion va se poursuivre ad aeternum, et puis vous allez suivre cette courbe-là. C'est le cas d'un univers qu'on appelle ouvert. Alors, Georges Lemaître, Georges Gamow ont été les grands défenseurs de ce modèle, mais d'autres astrophysiciens trouvaient ce modèle vraiment peu esthétique et ont inventé ce qu'on appelait alors le modèle d'état stationnaire, qui est le fait de Bondy, Gould, et Fred Hoyle aussi. Alors, l'idée était la suivante: pour éviter cette singularité initiale, eh bien, votre morceau d'univers contenant un certain nombre de galaxies est là, à un temps arbitraire. Vous attendez quelques milliards d'années. Vous avez évidemment un volume plus grand, puisqu'il est impossible de contester la dilatation de l'univers, ce qui est un fait observationnel bien assis. Par contre, vous avez davantage de galaxies dans ce volume plus grand. Pourquoi ? Parce que on a postulé que de la matière apparaît spontanément dans les vides laissés par l'expansion. Autrement dit, Le problème de la création, si vous voulez, ou de l'origine de la matière, au lieu d'être concentré au moment du Big Bang, si on peut parler comme ça, est dilué tout au long de la vie de l'univers. Et alors, ce qui est très pratique dans ce modèle-là, c'est que si vous remontez le temps, eh bien, vous avez ce volume qui rapetisse, mais vous avez aussi le nombre de galaxies qui diminue parce qu'elles se dissolvent dans le néant au fur et à mesure que vous avez contraction. Par conséquent, comme l'univers est infini, vous pouvez attendre tout le temps que vous voulez, il sera toujours semblable à lui-même. Et la grande qualité de ce modèle, c'est qu'il satisfait à ce qu'on appelle le principe cosmologique parfait. Le principe cosmologique vous dit que, quel que soit le morceau d'univers que vous prenez, à quelque endroit que ce soit, s'il est suffisamment grand, il aura toujours la même densité, le même aspect, la même composition chimique, etc. Mais c'est pas vrai dans la dimension temporelle. Par contre, dans ce modèle-là, enfin, dans le cadre du Big Bang, dans ce modèle-là de création continue et d'état stationnaire, l'homogénéité de l'univers est vraie non seulement dans les trois dimensions spatiales, mais aussi dans la dimension temporelle. L'univers elle-même, dans le passé comme dans le futur, et du coup, la question du commencement et de l'origine est tout simplement évacuée. Maintenant, que dit la nature ? Heureusement, il y a des observateurs qui sont là quand même pour cadrer les théoriciens, si j'ose dire. En 1965, vous avez la découverte de ce qu'on appelle le rayonnement fossile, à 2,7 degrés ou à 3 degrés K, en gros, découvert par Penzias et Wilson, qui se sont aperçus que, quel que soit l'endroit où ils pointaient leur antenne millimétrique, ils constataient l'existence d'un rayonnement dit isotrope, c'est-à-dire justement le même partout, dans toutes les directions. Et ils ont eu le mérite de comprendre la signification cosmologique de cette observation, qui leur a valu d'ailleurs le prix Nobel en 1978. Et en 1990, le satellite Kobe, qui a été lancé spécialement pour étudier ce rayonnement-là, a confirmé de manière absolument superbe la nature thermique de ce rayonnement. C'est-à-dire que l'intensité, ici vous avez l'intensité du rayonnement en fonction de la longueur d'onde, ici en millimètres, vous voyez, et les points noirs sont les observations, la courbe rouge est la courbe théorique dite de Planck, c'est une distribution qui représente un rayonnement thermique dit de corps noir, et vous avez un accord absolument superbe, qui est un très fort argument en faveur du Big Bang. Pourquoi ? Parce que justement, si vous imaginez cette soupe extrêmement chaude avant que les galaxies se forment, donc formées de noyaux, de protons, d'électrons, eh bien, les électrons libres dans ce milieu diffusent la lumière. Donc vous aviez ces constituants matériels, mais aussi beaucoup de rayonnement. Et c'est un peu comme quand vous regardez le ciel bleu, vous voyez, c'est la lumière du soleil en fait qui est diffusée par les molécules d'air. Eh bien là, vous aviez le rayonnement ambiant qui était diffusé par les électrons et vous étiez dans une sorte de brouillard, bleu peut-être à une certaine époque, et puis de plus en plus rouge au fur et à mesure que l'univers se dilatait et que ce rayonnement se refroidissait. Arrive un moment où les électrons se combinent avec les protons et les noyaux d'hélium, et puis tout à coup, par absence de ces électrons libres, le rayonnement n'est plus diffusé, le milieu devient beaucoup plus transparent, le brouillard se dissipe, mais le rayonnement subsiste et sa longueur d'onde est étalée par l'effet de la dilatation de l'espace. N'est-ce pas ? Il ne faut pas imaginer, contrairement à ce qu'on pense parfois, la dilatation, disons la fuite des galaxies, comme une sorte de vitesse de galaxies qui se déplacent dans un espace qui serait fixe, mais une dilatation de l'espace lui-même à grande échelle. Et du coup, la longueur d'onde de ce rayonnement, qui avait une température de l'ordre de 3000 degrés quand il y a eu combinaison des électrons avec les protons, n'a plus maintenant que 1000 fois moins, une température 1000 fois plus faible et une longueur d'onde 1000 fois plus grande. À la fin du XXe siècle, une autre découverte absolument fondamentale a été faite par deux équipes concurrentes, une dirigée par Saul Perlmutter, l'autre par Adam Riess. Ces deux équipes espéraient trouver comment ralentissait l'expansion de l'univers, parce qu'on pensait que l'expansion de l'univers allait ralentir, exactement comme on le voit ici sur ces schémas. Alors, ils voulaient savoir, est-ce que ça ralentit peu, comme ici, ou est-ce que ça ralentit beaucoup plus vite, comme là ? Et puis, contre toute attente, ils se sont aperçus que, loin de ralentir, l'expansion de l'univers s'accélère. Alors, vous avez ici des courbes théoriques, je ne vais pas les commenter en détail par manque de temps, mais vous avez ces trois courbes qui sont reprises ici en tant que différence. Vous voyez que les points s'alignent plutôt sur la courbe supérieure qui correspond à un univers en expansion accélérée. Alors ça, c'est évidemment quelque chose d'assez surprenant. Et on aboutit ainsi à ce qu'on appelle le scénario du modèle cosmologique standard, qui est illustré sur cette figure. Alors, cette figure est assez intéressante parce qu'elle joint aussi bien l'axe temporel, qui est l'axe horizontal, et puis deux axes spatiaux. Évidemment, on ne peut pas représenter les trois dimensions, mais seulement deux, l'une verticalement, l'autre perpendiculairement à l'écran. Et vous avez le tout début, le Big Bang proprement dit, qui est encore assez mystérieux parce qu'on n'a pas réussi encore à allier la théorie de la gravité d'Einstein avec la mécanique quantique, c'est quelque chose qui reste un peu fragile. On suppose qu'il y a eu, au tout début de l'histoire, donc à 10 puissance moins 35 secondes ou quelque chose comme ça, donc vraiment la toute première fraction de seconde, une expansion extrêmement rapide, extrêmement violente, où l'univers s'est dilaté d'un facteur, quelque chose comme 10 puissance 40, je crois, en un temps extrêmement court. Et puis après, l'expansion a continué, mais de manière beaucoup plus lente. Pendant plusieurs centaines de milliers d'années, vous aviez ce brouillard opaque dont j'ai parlé tout à l'heure, qui s'est éclairci après 400 000 ans. Ensuite, vous avez un âge appelé ici âge sombre, parce qu'il n'y avait pas encore d'étoiles. Et puis, quelques centaines de millions d'années après, les premières étoiles, les premières galaxies, les premières structures se sont formées, grâce à l'action de la gravitation d'ailleurs. Et puis, au début, l'expansion était ralentie légèrement, et puis ensuite, l'accélération d'expansion a pris le dessus, et nous sommes dans une phase ici, nous sommes là. WMAP ici, c'est un satellite qui est successeur de Kobe, qui étudie très en détail cette surface de dernière diffusion, comme on l'appelle, donc le rayonnement fossile. Et puis nous sommes dans un univers en expansion accélérée, après à peu près 14 milliards d'années. Quelles sont les preuves de ce scénario? Vous allez me dire, bon, c'est quand même à très grande échelle, c'est bien spéculatif tout ça. Alors, je vous ai cité deux arguments, la fuite des galaxies, qui est la toute première observation dans ce sens, le rayonnement fossile. Il y en a 7 au total que j'ai recensé, on peut peut-être en citer d'autres, je ne vais pas les commenter toutes, bien sûr. Si ce n'est la quatrième, ici, variation de la température du rayonnement fossile en fonction de l'âge de l'univers. Alors, c'est un argument qui est assez récent, parce que les observations sont difficiles, mais qui me paraît extrêmement fort comme argument en faveur de ce scénario du Big Bang. Sur ce diagramme, vous avez ici le décalage vers le rouge, Z, c'est l'augmentation relative de la longueur d'onde, et puis la température ici en ordonnée, la température qui correspond au rayonnement fossile. Alors, je vous ai expliqué qu'au début de l'univers, ce rayonnement avait une température considérable, au moment où l'univers devenu transparent, c'était que plusieurs milliers de degrés. Et puis ensuite, la température correspondant à ce rayonnement a décru jusqu'à l'époque actuelle, donc nous sommes ici, 2,7 degrés absolus. Oui, j'ai oublié de dire que l'échelle Kelvin, c'est l'échelle de température absolue. Donc le zéro de l'échelle Kelvin, c'est moins 273 degrés centigrades. Et ça correspond, si vous voulez, à l'état physique où les molécules et les atomes cessent de vibrer complètement, grossièrement dit. Alors, l'idée, c'est comment est-ce qu'on fait pour mesurer le rayonnement fossile à des époques antérieures de l'univers? Eh bien, il faut savoir que le fait d'observer loin dans l'univers est une machine à remonter le temps. Vous observez la galaxie telle qu'elle était lorsqu'elle vous a envoyé la lumière, parce que la lumière n'a pas une vitesse de propagation infinie. Donc, vous pouvez observer à plusieurs milliards d'années de lumière, et vous avez l'état de la galaxie telle qu'elle était à cette époque-là. Et dans les galaxies, vous avez des étoiles, vous avez aussi du gaz qui est relativement loin des étoiles et qui est protégé plus ou moins du rayonnement des étoiles de la galaxie auquel il appartient. Et ce gaz, vous pouvez observer des objets plus lointains à travers lui et mesurer en particulier les raies spectrales données par des molécules de ce gaz, l'oxyde de carbone par exemple. Et vous pouvez constater en étudiant les raies spectrales que vous pouvez mesurer, qu'une bonne partie de ces molécules, au lieu d'être dans un état d'énergie minimum, l'état d'énergie fondamental, eh bien, une bonne partie sont excitées légèrement, et cette excitation, vous pouvez l'attribuer au rayonnement fossile. Et évidemment, plus le rayonnement fossile a une température élevée, et plus la proportion de molécules que vous voyez sera excitée dans les premiers niveaux d'énergie, un petit peu au-dessus du niveau fondamental d'énergie minimum. Et de cette manière-là, des travaux récents, qui datent d'ailleurs de fin 2010, ont permis d'établir ces points rouges. Alors vous voyez qu'il y a des barres d'erreur qui ne sont pas négligeables, mais quand même, c'est intéressant de voir qu'on tombe exactement sur la relation théorique qui dit que la température décroît de manière uniforme au fur et à mesure que l'univers se dilate. Et vous avez ici des points bleus qui sont basés sur un principe totalement différent et totalement indépendant, mais qui s'aligne fort bien avec les autres résultats. Alors bien sûr, je vous ai présenté les beautés des résultats scientifiques, il y a aussi des limites évidemment, et des questions. Ce scénario ne résout pas tout, ce n'est pas une panacée, en particulier pourquoi l'univers a subi une expansion accélérée dans la toute première fraction de seconde, qu'on appelle l'inflation, Ça reste assez mystérieux. Et puis surtout, c'est assez drôle de voir que si on fait le bilan énergétique total de l'univers, enfin total, disons, vous prenez une portion représentative de l'univers, vous regardez quelle est la quantité de masse, et puis vous l'exprimez en termes d'énergie, avec la fameuse formule E égale mc carré, n'est-ce pas ? Eh bien, si vous faites ça avec la matière normale, dont nous sommes constitués, dont le Soleil est constitué, le gaz interstellaire, etc., vous obtenez que 4% du bilan énergétique total de l'univers. C'est ce petit morceau de camembert ici. Et les trois quarts de l'énergie, du contenu énergétique de l'univers, c'est cette énergie qui est responsable de l'accélération de l'expansion, et dont on a par ailleurs aucune idée, on ne sait pas ce que c'est que cette énergie noire, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, faute de mieux. En plus de ça, vous avez 22% environ de matière sombre, appelée ainsi parce qu'elle n'est pas détectable, elle n'a pas d'interaction avec la lumière, donc elle n'émet rien, elle n'absorbe rien. Par contre, elle se manifeste par l'attraction gravitationnelle, et on est obligé de la postuler, par exemple, pour expliquer les mouvements des galaxies dans les amas de galaxies. Donc vous voyez qu'au fond, les 96% du contenu énergétique de l'univers sont encore très très mystérieux, et cela donne évidemment beaucoup de travail pour les cosmologistes du futur. Pour conclure, j'aimerais tâcher de répondre brièvement à une question que vous pouvez peut-être vous poser, surtout en tant que croyant. Pourquoi diable Dieu a-t-il choisi de faire un univers aussi grand et aussi long, n'est-ce pas ? 14 milliards d'années, bon, c'est vite passé, mais enfin, puisqu'on y est déjà, mais c'est quand même, ça paraît quand même bien long sur l'échelle humaine. Alors, il y a évidemment une réponse théologique. Dieu a voulu montrer sa grandeur, par exemple. C'est pour sa gloire qu'il a fait cela, et puis il n'est pas pressé par le temps, il n'a pas de train à prendre. Mais il y a aussi une réponse donnée par la physique, d'une certaine manière, par la thermodynamique en particulier. Vous savez que dans un système fermé, la thermodynamique vous dit que l'entropie ne peut que croître ou rester constante. L'entropie, c'est quoi ? C'est le degré de désordre, si bien que dans tout système physique, il n'est possible d'augmenter l'ordre qu'aux dépens du reste du volume, du reste de l'enceinte ou du système que vous avez. Exemple, le lac qui gèle. Je reprends cet exemple de Hubert Reeves. Vous avez un lac, milieu parfaitement homogène, c'est liquide partout. La nuit, il fait froid. Vous avez une pellicule de glace qui se forme. Le système final est plus complexe que le système initial, puisque vous avez deux phases, phase liquide, phase solide. Où est passé l'excès de désordre, l'excès d'entropie ? Eh bien, il a été rayonné dans l'espace. Or, c'est exactement ce qui se passe, en fait, à l'échelle de l'univers, semble-t-il. Vous pouvez considérer que l'univers, en somme, comme l'atelier de Dieu, hein, un petit peu comme un sculpteur fait pas mal de désordre, et il y a pas mal de déchets quand il fait une statue. Vu qu'on ne peut créer l'ordre qu'au dépens d'un désordre correspondant, eh bien, l'espace en expansion est un milieu idéal pour absorber l'excès d'entropie ou l'excès de désordre qui est nécessité par la création des structures que nous constatons dans l'univers. Trois points ensuite. D'une part, la science, alors, au terme de cet exposé, je pense qu'on peut dire que la science nous apprend notre petitesse vis-à-vis de l'univers. Ça, c'est un fait objectif, physique, matériel, qui est indubitable. Alors, la philosophie, d'une certaine manière, peut nous redonner peut-être un peu de fierté en pensant à ce que Pascal disait dans ses pensées, n'est-ce pas ? L'homme est un roseau fragile et vulnérable, mais c'est un roseau pensant, capable même de reconstituer l'histoire de l'univers dans une certaine mesure. Mais par contre, seule la foi en un Dieu personnel peut nous donner notre pleine dignité, puisque Jésus a accepté de donner sa vie pour nous. Mais en même temps, c'est une dignité qui n'est pas vantardise, puisque nous ne sommes pas du tout des êtres souverains, mais nous sommes soumis à la transcendance. Donc l'humilité reste garantie tout autant que notre dignité. Voilà. Et je citerai en conclusion cette parole de l'apôtre Paul dans Éphésiens. Avant que le monde fût créé, Dieu le Père nous a choisis dans le Christ. Et d'une certaine manière, même si nous sommes poussière d'étoiles, selon les mots de Hubert Reeves, même si nous sommes infiniment petits, nous avons quand même le privilège d'une certaine manière de transcender l'univers, puisque dans la pensée de Dieu, nous préexistions à l'univers matériel, et puis nous sommes appelés à rejoindre notre Créateur. Je vous remercie de votre attention.